bienvenue à ce nouveau mardi d'éthique publique consacré à un sujet qui, il y a encore peu, aurait pu sembler un poisson d'avril. Je vous rappelle que nous sommes le 1er avril. Pourtant, aujourd'hui, il fait partie intégrante de notre réalité. Trump, Poutine et Xi Jinping vers un nouvel ordre du monde. Car depuis la prise de fonction du nouveau président américain, il y a un peu plus de 2 mois, la géopolitique mondiale a pris des tournants que l'on aurait jugés improbables il y a quelques années à peine, et en quelques mois à peine. Donald Trump semble vouloir redéfinir l'ordre international en perturbant le système d'alliance qui a structuré le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce réajustement est particulièrement visible dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les négociations pour un cessez-le-feu après 3 ans de conflit de haute intensité et 11 ans, si l'on parle de l'invasion de la Crimée et du Donbass, ne cessent de surprendre. Tous les jours, les initiatives du président américain et de son équipe, que ce soit en matière diplomatique, douanière, monétaire, voire sociétale, bousculent l'ordre établi. Les sanctions économiques, les pressions sur les ressources énergétiques et les messages diplomatiques, souvent contradictoires, contribuent à fragiliser les bases de la solidarité occidentale. Et la Chine observe ce qui se passe. Que penser de ces évolutions? Les prises de position de Donald Trump en faveur de la Russie et contre ses alliés occidentaux sont-elles du calcul à court terme, une tactique de prédation, un peu comme un corsaire, ou bien une révision stratégique à long terme sur le rôle des États-Unis dans le monde, se rapprocher de la Russie pour affronter la Chine? Après des décennies sous le confortable parapluie nucléaire américain, l'Europe s'est enfin réveillée. Commence-t-elle à se concevoir comme une puissance? La Russie est-elle en embuscade pour reconstituer son empire dans les pays baltes et en Europe de l'Est? La Chine va-t-elle saisir l'occasion de récupérer Taïwan? On a vu qu'il y avait encore des grosses tensions aujourd'hui. Et comment se positionnent les pays du Sud que l'on dit global? Le Sud que l'on dit global. Pour en discuter, nous avons la chance d'accueillir 2 experts dont l'analyse nous permettra de mieux comprendre ces dynamiques complexes. Général Dominique Trinquant, vous êtes diplômé de Saint-Cyr, vous avez eu des commandements au Liban et en ex-Yougoslavie, et en France évidemment, et vous avez occupé des postes à responsabilité au sein de l'OTAN, de l'UE et de l'ONU. Vous êtes l'auteur de « D'un monde à l'autre », c'est celui-là, qui est sorti à l'automne dernier, et « Ce qui nous attend », l'effet papillon des conflits mondiaux, sorti en 2023. Et Jean-Christophe Ploquin est rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. Et il va arriver, j'espère. Je vais commencer donc avec vous, général, mon général. Comment caractérisez-vous les évolutions du monde actuel?
Oui, c'est monté, c'est bon. Merci d'abord beaucoup pour votre invitation. Écoutez, ce qu'on voit aujourd'hui est la résultante d'un certain nombre d'évolutions. L'évolution la plus ancienne remonte en fait à 2007, lorsque M. Poutine, au Forum sur la sécurité à Munich, a lancé une attaque verbale à l'époque, très très volontaire, qui était « Nous ne voulons plus d'un monde unipolaire dirigé par les Américains ». Nous voulons d'un monde multipolaire dans lequel les BRICS vont tenir leur place. Donc, le programme était annoncé. Ça, c'est ce qui nous a conduit aux différentes opérations russes, donc en Géorgie, en Syrie et d'abord en Crimée. Remarquable opération en Crimée, hein, pas un coup de feu tiré. Sun Tse aurait été ravi, gagner la guerre sans livrer la bataille. Et puis, à ce qui nous arrive depuis 3 ans, qui est la guerre plus complète en Ukraine, dont il faut rappeler que la volonté de Poutine à l'époque est de neutraliser l'Ukraine. Que l'Ukraine soit neutralisée, donc dépendante de la Russie. Ça, c'est le premier mouvement à l'est, si j'ose dire. Le mouvement à l'ouest, eh bien, il est depuis 2 mois, donc c'est beaucoup plus court, mais beaucoup plus intense, parce que ça nous secoue énormément. Monsieur Trump, depuis 2 mois, c'est le choc et la fureur. Tous les matins, je le dis en plus avec le décalage horaire, méfiez-vous, ça va vous arriver dans la nuit, et on va se réveiller le matin avec une nouvelle surprise. Donc ça arrive. Bonjour. Et donc, c'est ce deuxième mouvement qui vient cette fois-ci de l'Ouest. Et donc, ce que je vois, moi, c'est une résurgence des empires. L'empire russe, vous parliez de Xi, la Chine, on parlera de Taïwan tout à l'heure peut-être, et puis l'empire américain, parce qu'il a vraiment une position impérialiste, hein. Annexion du Canada, du Groenland, etc., etc. Et nous, Européens, là-dedans, les empires, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Ça nous rappelle des guerres. L'Empire germanique, l'Empire français, l'Empire britannique. Et depuis 1945, on a oublié ça. Nous, on s'est installé dans une ère de paix, de prospérité, dans laquelle la guerre n'était plus possible. Alors, je suis de la génération, comme d'autres ici, d'avant 90, qui ont connu face au pacte de Varsovie. Donc jusque-là, on s'était dit encore peut-être la guerre. Puis il y a eu les soubresauts de l'ex-Yougoslavie. Mais globalement, la guerre n'était plus possible en Europe. Et là, avec cette menace militaire claire à l'Est et cette menace de lâchage par nos alliés américains sur lesquels on comptait depuis le début, on disait « pas de problème, il y a le parapluie américain ». Enfin, quand je dis « on », pas les Français, hein, mais les autres, il y a le parapluie nucléaire, tout ça, ça va bien. Eh bien, depuis 2 mois, d'un seul coup, et moi je le vois, j'étais à Londres il y a 8 jours, j'ai été fasciné, hein, tous les Européens qui disent « ah mais les Français, vous aviez raison ». Vous aviez raison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur les Américains en permanence. Et je dis souvent, même si on se dit ben, « après Trump, qu'est-ce qu'il y aura ?», les Européens ne peuvent pas se poser la question, tous les 4 ans, de comment vont voter 30 000 électeurs de l'Ohio ou du Kansas, ou etc., et que le balancier parte dans l'autre sens. C'est pas possible. Les Européens doivent assurer leur sécurité, leur développement. Faut juste rappeler, je parlais des empires puissants, faut juste rappeler que l'Europe, c'est quand même la troisième puissance économique mondiale, 450 millions d'habitants, et tout cumulé, alors très mal organisé, c'est vrai, mais les budgets de défense, tout cumulé, c'est plus de 300 milliards de dollars, d'euros. Et donc, ça veut dire qu'il y a des capacités. Le problème, c'est que l'Europe n'est pas organisée comme ça, parce que, je le répétais, les empires sont loin de nous. Donc, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, à ce bouleversement. Et il va falloir voir dans les jours qui viennent avec M. Trump, dans les mois qui viennent avec M. Poutine, et peut-être dans les années qui viennent avec l'Europe, comment tout ceci va évoluer. Je voudrais juste citer en conclusion de cette introduction Antoine de Saint-Exupéry, qui dans Citadelle dit « L'avenir, ce n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » Donc, il ne faut pas regarder dans une boule de cristal, il faut travailler.
Merci. Jean-Christophe, on va peut-être... je vais te tutoyer, parce que quand même, on travaille tous les jours ensemble. On en est où aujourd'hui ?
Bonjour à tous et à toutes, et pardonnez mon retard. J'arrive en direct de Montrouge et j'avais le vent de face en vélo. Je pense que j'aurais eu le vent favorable, je serais arrivé à l'heure.
T'arrives de Malakoff, on vient de déménager.
De Malakoff, oui, c'est ça. Voilà, où est-ce qu'on en est ? Alors, j'ai entendu... Général Trinquant, ce que vous avez dit, et je crois qu'on va être assez proche. C'est très intéressant. On peut dire que la menace russe, depuis plusieurs années maintenant, elle fait partie du paysage. On la sent avec plus ou moins de vigueur, mais en tout cas, depuis notamment l'agression, l'attaque de l'Ukraine par Vladimir Poutine en 2022, elle est inquiétante, mais on l'a intégrée, cette menace. Là où on est complètement pris à rebours, et c'est ce que vous soulignez, c'est le fait que le plus grand allié de l'Europe, aujourd'hui, selon les images qu'on peut utiliser, nous tape dans le dos, nous frappe dans le dos, nous met des bâtons dans les roues, et donc il joue contre nous. Et donc cet allié, c'est les États-Unis. Et le moment où beaucoup en Europe, et moi le premier, ont compris ça, c'était donc ce qu'on appelle la conférence de Munich, donc cette réunion organisée en Bavière toutes les années et qui rassemble un peu le gratin de la défense et de la sécurité européenne, mais aussi du monde.
Et Général Trinquant a évoqué la conférence de Munich en 2007.
2007,
mais justement.
Où c'était Poutine.
Oui,
et donc là, ben voilà, c'est le deuxième tremblement de terre. Il y avait un premier tremblement de terre quand Poutine a eu ce discours très agressif en 2007. Et là, c'était J.D. Vance, donc le vice-président américain, qui a tenu un discours très brutal à l'égard des Européens. Et surtout, ce qui a énormément marqué, et notamment qui a marqué les Allemands, c'est que au lieu, il avait au premier rang, là, il était là, le futur chancelier allemand, Friedrich Merz, était là devant J.D. Vance, et au lieu d'avoir un discours d'ouverture, un discours de courtoisie, on a des différends mais on va discuter vis-à-vis du futur chancelier, il a totalement, non seulement boycotté le futur chancelier, mais l'actuel, celui qui va bientôt passer la main, Schulz, et en fait, il est allé voir la leader du parti d'extrême droite, l'AFD, alors qu'il y avait donc la campagne électorale. Et donc, c'était quelques jours avant les élections allemandes. Donc, ça a envoyé un signal alors que les Allemands ont pris en pleine face. C'est-à-dire que pour les Allemands, les États-Unis, c'est vraiment le deuxième pilier avec l'Union européenne de leur stratégie extérieure. Eh bien, tout à coup, cet allié leur donnait un grand point dans la figure à tous les démocrates allemands et leur disait, moi, mon allié, C'est la patronne de l'AFD.
C'était à quelques jours des élections.
Et c'était à quelques jours des élections. Donc là, ce qui apparaissait lointain, ça se passait aux États-Unis, la victoire de Trump, on la connaissait, on avait vu ce qui s'était passé, mais on pensait que c'était une affaire entre Américains. Et là, ce qu'on a compris avec cette séquence de la conférence de Munich, c'est que dorénavant, cette confrontation idéologique extrêmement brutale qui se déroule aux États-Unis, les États-Unis voulaient la transposer chez nous et définir qui étaient leurs alliés. Et leurs alliés, bah, c'est donc la patronne de l'AFD, c'est Viktor Orban en Hongrie, c'est Madame Meloni en Italie. En France, le RN, le Rassemblement National, hésite à afficher une proximité, mais c'est un vrai sujet pour eux. Mais voilà, donc il y a cette bataille idéologique qui a été transposée sur le territoire européen. Et elle se joue aussi dans la façon dont les États-Unis envisagent dorénavant leur relation avec la Russie. Et donc cette bascule, elle a lieu aussi dans la façon dont Donald Trump et d'autres autour de lui envisagent la relation avec Vladimir Poutine. C'est-à-dire, on met de côté tout ce qui concerne les valeurs, tout ce qui concerne la démocratie, tout ce qui concerne les droits de l'homme. C'est pas, mon cher Vladimir, c'est pas un problème. Parlons plutôt de nos intérêts réciproques et essayons de trouver un deal si c'est sur le dos des Européens, bah finalement, c'est tant pis pour eux. Voilà. Donc, on est dans cette bascule et j'étais récemment avec un diplomate français qui a des hautes responsabilités au sein de l'OTAN et à un moment dans la conversation, il évoquait finalement un scénario qui serait vraiment le scénario le plus inquiétant pour les Européens et pour l'OTAN. Mais il n'avait pas précisé lequel. Donc je le relance et je lui dis, mais quand vous parlez d'une urgence absolue, un scénario d'urgence absolue, ça veut dire quoi? Et moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, ben, je sais pas, les Russes attaquent les pays baltes, on voit des petits hommes verts qui arrivent en Roumanie ou des choses comme ça.
Ça avait été le cas dans le Donbass.
C'est ça, et en Crimée. Et en fait, ce qu'il a répondu, le scénario d'urgence absolue, et peut-être que vous confirmerez, c'est un retrait brutal des troupes américaines en Europe et de toutes les installations, enfin tous les matériels américains qui sont stationnés en Europe pour garantir une partie de la sécurité européenne. Et donc à l'OTAN en ce moment, ce qui fait, pardonnez-moi l'expression triviale, ce qui fait flipper les diplomates et les généraux qui sont à l'OTAN, c'est qu'ils se disent d'un jour à l'autre, Trump peut dire « je retire 50 000 hommes de 50 000 soldats américains d'Europe, j'en laisse peut-être quelques milliers ». Mais en tout cas, non seulement il retire les hommes, mais il retire aussi tout ce que les Américains apportent en priorité à l'OTAN, et là où ils apportent le plus grand nombre de moyens, qui sont les moyens de surveillance et de renseignement, des moyens aussi de command and control, donc tous les dispositifs qui permettent à toutes les armées européennes de l'OTAN de fonctionner ensemble. Si les Américains décidaient de débrancher ça, il faudrait des années pour que les Européens de leur côté bâtissent un nouveau système qui leur permette de fonctionner ensemble. Et donc c'est ça, aujourd'hui, ce qui est considéré comme l'urgence, le scénario le plus dangereux et avec, parce que évidemment, ça ouvrirait un boulevard à Poutine. Et donc voilà, on est là de la relation entre les États-Unis et les Européens, dans une relation où il y a non seulement plus de confiance, mais où il y a la crainte de scénarios vraiment d'abandon. Et donc, pour les Européens, mais on peut rebondir ensuite, mais pour les Européens, évidemment, se pose la question de comment agir. Il y a des pistes qui s'esquissent et on peut y revenir après. Et puis aussi, finalement, pour rebondir sur le titre, est-ce que c'est un scénario, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que ça va conduire les États-Unis vraiment à se tourner vers ce qu'ils considèrent comme étant le plus grand défi pour eux et qui est donc une confrontation, là aussi c'est pas très rassurant, mais une confrontation que d'aucuns estiment plus que probable entre la Chine et les États-Unis, on va dire dans les 5 ans ou les 10 ans qui viennent, c'est aussi une question très ouverte et c'est peut-être l'une des clés d'explication aussi de ce renversement, de ce changement de pied des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. C'est que pour eux, le plus grand péril, finalement, ce n'est pas Poutine, mais c'est la Chine.
Scénario
du pire.
Oui, alors, deux, trois éléments. D'abord, sur l'OTAN. Pour rappeler, aujourd'hui, il y a 100 000 soldats américains en Europe à cause du renforcement de ces dernières années. Monsieur Trump avait déjà décidé du retrait de force. 35 000 soldats américains avaient été retirés à l'époque de Monsieur Trump. Ça, c'est le premier point. Je vous disais que j'étais à Londres, il y a un bruit qui courait, qui m'a beaucoup intéressé. Les Américains vont lâcher le poste de SACUR. Qu'est-ce que c'est que SACUR ? C'est le commandement suprême de l'OTAN, qui est en même temps commandement des troupes américaines en Europe. Et le bruit court qui laisserait ça à un Européen. Alors évidemment, il y aura la bagarre français, anglais, allemand pour avoir le poste. Mais c'est un signe, ça, important, du lâchage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous signalez essentiellement l'aspect commandement et renseignement, qui est important. Alors, je crois qu'on a un peu tort parfois de comparer l'armée américaine. Il n'y a rien qui peut se comparer à l'armée américaine. Budget 850 milliards de dollars.
300 milliards pour l'ensemble des Européens, 350.
Ouais. Ouais. Donc, mais les États-Unis, c'est mondial. Donc ça s'occupe du front Pacifique, du front. Nous, finalement, on a besoin de quoi ? De se défendre. Donc, si vous voulez, l'énormité américaine, mettons-la un peu de côté et réfléchissons à ce dont nous avons besoin. Moi, j'ai travaillé un petit peu avec les Américains. J'étais dans un PC sur le mont Whitney, qui est un bateau américain dans la Baltique. D'ailleurs, c'est intéressant, zone actuelle, très d'actualité. Et j'étais effaré par la puissance américaine. Just tell me how much, quand on montait une opération. C'est tout. Bon, nous, on n'est pas tout à fait dans cette perspective-là. Donc, je répète, il faut étudier ce dont nous avons besoin et ne pas se calquer sur ce que font les Américains. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui on parle de la Russie. Bon, je rappelle à tout le monde que la grande puissance russe, en 3 ans, n'a pas vaincu l'armée ukrainienne. Elle a occupé 17% du territoire ukrainien. Donc, oui, c'est important, mais c'est pas gigantesque. Alors, le territoire russe est gigantesque, mais pas la capacité nucléaire. Alors, la capacité nucléaire russe, oui. Mais quand on vous dit, ils ont 5000 ogives, on en a que 300, bah oui, suffit d'en prendre une sur la figure et ça suffit, hein, donc c'est pas la peine. Donc, je crois qu'il faut un peu pondérer tout ça. Deuxième point, vous avez raison, les Européens doivent se réveiller. Et nous le disons depuis le général de Gaulle. Et eux le disent depuis 2 mois. Ils avaient commencé à le faire lors du premier mandat de M. Trump. Et puis, il y a eu Biden. Et au passage, je dis toujours, moi, quand on me posait la question avant les élections, on me disait, Trump, Biden, alors tous les Français disaient, pourvu que ce soit, enfin pas Biden, Kamala Harris, pourvu que ce soit les démocrates, pourvu que ce soit les démocrates. Et je disais non, pourvu que ce soit Trump. Je l'aime pas du tout, mais ça va afficher un coup de pied derrière aux Européens, magistral. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Alors, il est quand même limité, hein. Vous voyez la décision prise par les Allemands qui viennent de passer un contrat de 2 milliards, les Polonais, la même chose, etc. etc. Donc, il se protège quand même, hein. Mais je crois qu'il faut d'abord voir ce dont nous avons besoin, comment l'organiser, comment le mettre en œuvre. Et je rappelais, quand j'étais à Londres, à mes amis britanniques, je dis, vous êtes bien gentils de venir, mais je vous rappelle qu'avant le Brexit, vous nous avez bloqués en permanence parce que vous ne vouliez pas qu'on développe un pilier européen de défense. Vous le refusiez. Dès que vous avez quitté l'Europe, ça y est, on a mis en place un PC limité, mais on l'a mis quand même. On a commencé à engranger un certain nombre de choses. Alors aujourd'hui, moi je suis content, vous avez compris que l'Atlantique vous sépare des Américains, vous êtes de notre côté de l'Atlantique, et je suis content de pouvoir travailler avec les Britanniques sur ces sujets-là. Mais on a été quand même beaucoup retardés. Donc oui, un, de quoi avons-nous besoin? Deux, il faut accélérer. Il faut surtout ne pas s'en remettre en permanence aux moyens américains, même si dans des domaines comme le renseignement et le commandement, on est quand même décalé par rapport à ce que les Américains fournissent dans le cadre de l'OTAN. Mais ça va venir, et mes camarades qui sont à l'OTAN me disent, nous on voit les Américains qui sont très emmerdés en clair. Parce que l'armée américaine, elle n'est pas du tout comme ça. Elle, l'ennemi, c'est toujours la Russie. Alors la Chine aussi, bien sûr, mais la Russie toujours. Et pour les citoyens américains, il y a une majorité de citoyens américains pour qui c'est toujours. Et donc la position de l'administration Trump, très glauque au passage, hein, les liens avec la mafia russe, avec pas très clair tout ça, ça pose quand même des vraies questions. Mais ces questions, ça doit nous ramener à nos responsabilités, à nous Européens.
Il y a une cohérence à la stratégie de Trump ou pas ?
Une stratégie impérialiste, uniquement les États-Unis, que les États-Unis et toujours les États-Unis. Et donc, lorsqu'ils passent, moi je discute souvent avec des Canadiens, je peux vous dire qu'ils sont remontés comme des pendules. À nous, le 50e État, faut pas en parler. Bon, le problème, c'est qu'il y en a même qui voudraient rejoindre l'Union européenne. Bon, ils sont quand même de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, c'est un peu compliqué.
Ce qui est intéressant au Canada, c'est qu'effectivement, il va y avoir des élections.
Ouais.
Le candidat conservateur était très largement en tête. Et puis finalement, Mark Carney, qui est le nouveau Premier ministre canadien, remonte fortement dans les sondages parce qu'effectivement, ils ont pris des positions très anti-américaines.
Et c'est lui qui a décidé d'élections anticipées parce qu'il a dit, pour lutter contre cette pression américaine, j'ai besoin d'une vraie légitimité aux élections. Et donc, j'avance les élections. Mais simplement, on doit, nous, Européens, se réveiller. Je répète, les chars russes ne sont pas sur les Champs-Élysées demain. En revanche, nous avons beaucoup d'attaques, cyber, communication, mais c'est tous les jours, tous les jours. Et là, sans aucun garde-fou, hein, c'est en permanence. Donc, il faut déjà, vous parliez des problèmes sociétaux, en fait, qu'a évoqué M. Vance. Je crois que, vraiment, il ne faut pas tout rejeter du côté américain. Le wokisme était allé trop loin, ce qui a provoqué un mouvement retour. Et les Américains, ils savent pas aller au milieu. Nous, les Européens, on aime bien être au milieu. Eux, c'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. J'étais en 2003, au moment de la guerre en Irak, à New York, hein, donc au Conseil de sécurité, j'ai vécu le combat avec les États-Unis. Nous étions à jeter au caniveau. Bon, en 2006, je suis reparti en 2004, en 2006, je reviens, et là, tous les Américains viennent me voir et me disent « vous aviez raison ». Je dis oui, c'est ça les vrais amis. Nous, on est capable de vous dire la vérité. Donc, il bascule vraiment un peu comme ça. Nous, il faut absolument qu'on essaye de maintenir le cap. Pas facile, hein. Ça fait 2 mois que Trump est là. Est-ce que dans 6 mois, après préparant les midterm elections, se rendant compte que l'opinion publique vacille comme ça, il va changer un peu de langage et d'un seul coup, vous allez voir tous les Européens qui vont aller faire la cour à Washington. Il faut maintenir notre cap. Encore une fois, nous ne sommes pas des ennemis des Américains. Nous ne nous éloignons pas des Américains, ce sont eux qui s'éloignent de nous. C'est pas la même chose. Donc, faut bien le prendre en compte.
Jean-Christophe ?
Oui, une des interrogations, c'est finalement la situation intérieure aux États-Unis. Et il y a quand même une grande interrogation sur, en tout cas, beaucoup d'Américains aujourd'hui, parmi les intellectuels, parmi les acteurs politiques, s'interrogent quand même sur est-ce que les institutions américaines vont tenir, parce qu'elles sont soumises quand même à un choc d'une violence extraordinaire et par des acteurs hyper puissants. Donc c'est le président Trump qui a été élu alors que voilà il était poursuivi de nombreux procès, l'attaque du Capitole qu'il avait quand même encouragé. Enfin voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui pour qui la démocratie est quand même une valeur assez faible, qui a même laissé entendre dans sa campagne que finalement en 2028 peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'élection parce que de toute façon il serait là et donc il n'y avait pas de raison qu'il s'en aille puisque de toute façon il allait redonner sa grandeur à l'Amérique. Donc il y a quand même un président qui a un dédain en fait pour la démocratie et une façon de fonctionner on appelle un peu tout le temps au peuple, qui en appelle, qui passe donc par-dessus les institutions, les autres institutions. Et donc, et dans son entourage, on voit que J.D. Vance aussi a une vision du futur de l'Amérique qui est très excluante. C'est vrai qu'il y a une sorte de reflux par rapport à ce qu'a été le wokisme, mais là on est aussi dans une vision très excluante. Et puis vous avez donc quelqu'un comme Elon Musk, mais il y a d'autres aussi grands patrons de la tech aux États-Unis pour qui également l'expression se déroule en direct sur les réseaux sociaux. Ils ont eux-mêmes, donc il y a une alliance en quelque sorte de grands intérêts économiques et financiers, ceux de la tech, avec aujourd'hui le pouvoir politique à Washington. Et les contre-pouvoirs paraissent quand même extrêmement bousculés. Donc c'est au Congrès où le Parti républicain a la majorité dans les deux chambres et ce sont pour la plupart des élus qui doivent leur élection à Trump. Donc il y a vraiment il y a très peu de résistance à l'intérieur du Parti républicain et le Parti démocrate, qui reste quand même un grand parti et qui a quand même beaucoup d'élus, pour le moment est très peu audible parce qu'ils sont encore sonnés en quelque sorte par la défaite. Donc là où on voit les éléments de résistance, c'est dans la justice, où il y a des juges qui s'opposent à décision, qui sont des décrets signés par Trump ou d'autres choses. Donc il y a là toujours cet état de droit américain qui est toujours en train de fonctionner, mais on sait que celui qui a été nommé à la tête du ministère de la Justice, là aussi est un pro-Trump, donc son job c'est de faire le ménage et en quelque sorte de virer ou de saboter le travail des juges qui se mettent en travers. Donc voilà, c'est une situation quand même très très grave qui est aujourd'hui traversée par les États-Unis et on ne sait pas effectivement dans la durée si de fait scénario extrême en 2028 pas d'élection et Trump imperator, ou bien est-ce que dans 2 ans, effectivement, à l'occasion des élections de mi-mandat, est-ce qu'il y a une réaction de l'opinion américaine ? Est-ce qu'il y a des Américains pour qui le plus important, c'est le pouvoir d'achat, c'est la vie au quotidien, et qui ressentent effectivement d'ores et déjà que leur situation ne s'améliore pas et qu'elle va peut-être s'aggraver si Trump continue une politique économique un peu bizarre ? Donc voilà, est-ce qu'il peut y avoir un effet en quelque sorte de contrebalancement ? Il n'en reste pas moins, comme vous le disiez, que Trump sera toujours là et que donc, dans cette perspective-là, les Européens ont vraiment intérêt à travailler de façon très étroite ensemble pour s'organiser eux-mêmes et se protéger eux-mêmes.
On va voir une indication assez rapide déjà de l'évolution de la société américaine avec l'élection pour la Cour suprême du Michigan qui a lieu dans quelques jours. Effectivement, savoir si les Républicains l'emportent ou si les démocrates sont en train de remonter.
Oui, je crois que sur les Américains, pour avoir un peu vécu là-bas, mais pas vraiment aux États-Unis, j'étais à New York, c'est un monde à part. On a trop tendance à penser qu'ils peuvent être comme nous. Les Américains ne sont pas comme nous. La côte Est, la côte Ouest, ça y ressemble un peu. Le reste, pas du tout. Et donc, on aurait tort, et c'est à chaque fois l'erreur qu'on fait quand il y a des élections américaines. On pense qu'ils vont raisonner comme nous, qu'ils vont voter comme nous et tout, et en fait, pas du tout. Donc, je crois que ça, c'est vraiment la première idée qu'il faut avoir à l'esprit. Et je reviens sur le mouvement wokiste, parce que on s'en plaint en France, mais à côté des États-Unis, c'est de la rigolade. Dans les universités américaines, c'était vraiment... quand vous voyez que pour vous enregistrer, il faut que vous choisissiez parmi 5 sexes. Moi, j'en connaissais que 2, mais il paraît qu'il n'y en a que 5. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Donc, je pense que les démocrates, pour l'instant, sont... la tête démocrate a fait un très mauvais choix en attendant que M. Biden se désiste, en mettant Mme Kamala Harris donc sans primaire. Et ça, c'était un choix de M. Obama. Et donc, elle s'est étalée. Et là, j'allais dire, le recours va venir des États, en fait. Il ne faut pas oublier que c'est un État fédéral. Et donc, la puissance des États est importante. Je donne un exemple, vous savez, sur l'écologie. On déchire les accords de Paris à Washington. Mais dans les États, il y a des États qui continuent à le pratiquer. Il y a des villes qui continuent à le pratiquer. Donc, je crois que c'est la force et la faiblesse des États-Unis. D'abord, un, ils ne sont pas comme nous, donc arrêtons de penser qu'ils vont faire comme nous, c'est pas vrai. Deux, il y a des contre-pouvoirs avec des choses étonnantes. Quand vous voyez les décrets signés par Trump, en fait, c'est une opération de cirque. Il se met dans un cirque et il signe ses trucs, il les montre à tout le monde, il est content comme ça, y compris des décrets qui vont contre la loi américaine. Et maintenant, les choses vont se mettre en place. Mais c'est le choc et la fureur. Donc les gens sont tous comme ça, en train d'écarquiller les yeux, et je pense que dans les États américains, ils sont en train de préparer les élections de mid-term. Et c'est là qu'ils feront le changement. Mais avant, il ne faut pas espérer grand-chose. Ça va, le rouleau compresseur va continuer à passer.
Merci, on va peut-être passer la parole à la salle. Y a-t-il des questions? Non, pas pour l'instant. Si, monsieur.
Une question, justement, elle a posé ici à la faculté de Loyola. J.D. Vance et Trump sont des chrétiens, même évangélistes pour Trump, catholiques pour J.D. Vance. Est-ce que pour vous, ça a une importance dans les choix qui ont été faits et éventuellement le rapprochement avec la Russie qui est quand même chrétienne?
En tout cas, pour Trump, il est effectivement protestant, mais je pense pas que la foi joue un grand rôle dans sa vie et dans ses choix. On va dire que c'est un euphémisme. Pour J.D. Vance, effectivement, il y a une conversion revendiquée et donc un peu le zèle du converti. On a publié à la Croix récemment le portrait de l'un de ceux qui avaient contribué finalement à sa conversion, même si oui, merci. Même si la personne en question est elle-même s'est convertie à l'orthodoxie, donc on voit des mouvements. Hein, voilà, c'est pas très stable comme panorama. Et donc effectivement, les références chrétiennes jouent un rôle dans la vision de J.D. Vance. Finalement, Il cherche aussi, d'ailleurs, en Europe, à s'appuyer sur des éléments qui portent aussi cette vision du christianisme comme identité de l'Europe. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que on peut se dire chrétien, mais ensuite, voilà, on est un peu tous en conscience de savoir que. Nos choix politiques vont pas forcément concorder avec l'intégralité de ce qui pourrait ressortir, alors pour les catholiques, de la doctrine sociale de l'Église ou de. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de confusion, en fait, chez une partie des chrétiens évangéliques ou des chrétiens catholiques américains. L'Église catholique aux États-Unis est très divisée, finalement, entre un courant conservateur. Et en fait, qui situe son engagement sur ce qu'on appelle pro-life, donc l'enjeu de la défense de la vie, l'enjeu de la lutte contre l'avortement est vraiment ce qui domine finalement dans leur vision. et face à une partie de l'Église catholique qui va être davantage soucieuse des enjeux d'inégalité, qui va être extrêmement sur un terrain social, qui va être dans les enjeux de coexistence raciale
et ce qui a environnementaux.
Été, et environnementaux. Ce qui a été intéressant, c'est que très vite après l'élection de Trump, l'épiscopat américain, dans sa quasi-entièreté, a pris une position très ferme et même presque hostile vis-à-vis de la politique migratoire qu'affichait Donald Trump. Voilà, donc on voit que si on parle des catholiques, le vote catholique en faveur de Donald Trump et du ticket Trump-Vance a très nettement augmenté. C'est donc, je crois que le vote était à 50-50 hein, entre les deux tickets, ce qui était quand même de fait assez nouveau. Mais voilà, il n'y a pas un unanimisme non plus derrière Trump et Vance.
Oui, juste in God we trust. Aux États-Unis, la religion est très importante. Un de mes amis, quand j'étais à Norfolk, me dit « Je vais t'emmener visiter Norfolk, je t'emmènerai le dimanche matin parce que tout le monde est garé devant les églises. » Donc, il n'y a pas d'embouteillage. Plaisanterie mise à part. Ensuite, il y a les personnes. Pour Trump, je crois que l'utilisation de ça est très importante. Sa vie personnelle montre qu'il s'en moque pas mal. Mais l'utilisation est importante et l'importance, c'est la photo dans le bureau ovale où tout le monde a la main posée sur son épaule et disent « Merci mon Dieu de nous avoir donné Donald Trump ». Vous voyez, c'est ça qui est important pour lui. Du côté russe, puisque vous parliez du côté russe, eh bien c'est la guerre sainte. Le lien entre l'orthodoxie et l'État et le patriarche qui déclare que c'est la guerre sainte, la guerre en Ukraine. Donc voilà, c'est l'utilisation de la religion plus que la religion elle-même qui, je pense, sont importantes.
On va attendre un micro, monsieur. On va vous passer un micro.
Je voudrais vous poser une question. Il semblerait que l'administration Trump a réagi à ce qui s'est passé maintenant ici en France, que Marine Le Pen était déclarée par le tribunal de Paris illégible. Qu'en pensez-vous?
Oui, de même que... et il lit ça au sujet de la Roumanie. Comme vous savez, il y a eu un premier tour des élections qui a été annulé en Roumanie à cause de manipulations qui ont été faites pour le candidat qui sortait de nulle part et qui s'est retrouvé en tête.
Manipulation russe.
Oui, manipulation russe, oui, par l'utilisation de TikTok en particulier. Chaque occasion saisie pour instrumentaliser va être utilisée. Alors, on peut en penser ce qu'on veut de la décision juridique qui a été prise, mais il l'utilise en disant « c'est une attaque contre la démocratie ». Bon, je rappelle juste qu'en Russie, les méthodes sont plus radicales. On empoisonne des opposants. Voilà, pour le rappeler. Donc, je pense qu'effectivement, ils vont utiliser dans les réseaux. Vous savez, je parlais tout à l'heure des attaques. Je vous le raconte parce que hier, ça m'a bluffé. Je reçois sur un réseau une intervention de M. Poutine, en russe, naturellement, sous-titrée en français. Les sous-titres en français étaient une attaque violente contre le président Macron, en disant « vous voulez faire la guerre », etc., etc. Seul problème, c'est que c'était l'enregistrement du discours de M. Poutine du 24 février 2022, donc où il déclarait la guerre, où ça, quand on entend le russe, on entend son discours, mais les sous-titres en français avaient été changés. Et donc, pour les trois quarts des gens qui regardaient, ils disaient, vous vous rendez compte, ils nous attaquent, etc. 1,5 million de vues en 10 jours. Donc, voilà l'utilisation qu'il y a là-dessus. Alors nous, on peut dire, bah écoutez, on est d'accord ou pas d'accord avec la décision des juges. On peut dire que la condamnation, oui, mais l'application immédiate, ça se conteste. On peut le voir. Monsieur Bayrou, je crois, à l'Assemblée aujourd'hui, en parlant, en disant qu'il faudra refaire une loi, encore une loi, parce que avant 2016, il n'y avait pas cette loi. Hein, donc, on ne pouvait pas être condamné de la même façon. Donc, on peut discuter tout ça. Mais le gros avantage, c'est que chez nous, on peut en discuter. Je ne suis pas persuadé qu'en Russie, vous puissiez le faire. Vous voyez, critiquer la participation, par exemple, aux élections, quand il y a uniquement M. Poutine et 5 candidats, dont 4 se désistent pour M. Poutine juste avant les élections. Voilà. Donc oui, chez nous, il y a probablement des erreurs, probablement des choses qui ne font pas, mais on peut en parler, vous pouvez me poser la question, je peux vous répondre. On ne va pas m'attendre à la sortie pour me mettre en tôle si j'ai dit je ne sais pas quoi. Vous voyez, si on utilise le mot guerre, on va en tôle. Non, il faut que ce soit l'opération spéciale. Voilà. Donc, il y a sûrement des choses dans notre démocratie qui ne sont pas parfaites, c'est évident. La démocratie n'est pas parfaite, mais on peut le critiquer.
Ce qui est remarquable, c'est qu'effectivement, à l'énoncé du jugement hier, au bout de 2-3 minutes, il y a eu une réaction de la Russie. C'est très étonnant. Hein.
Alors, c'est parce que Vladimir Poutine était en conférence de presse, et du coup, il y a une question qui lui a été posée. Mais pour rebondir aussi sur votre question, moi, ce qui m'a frappé, mais en même temps, il faut vraiment qu'on ait conscience de ça, c'est qu'en quelques, je sais pas, en 2 heures, vous avez eu quasiment les mêmes déclarations de Viktor Orban, de Salvini en Italie, de Wilders aux Pays-Bas, et quand il s'est réveillé, de Vance et de Musk aux États-Unis. Et c'est pas un hasard. C'est qu'ils sont coordonnés. C'est qu'ils se parlent. C'est qu'ils se concertent. Et donc, c'est là où on est bel et bien dans la bataille idéologique. C'est qu'il y a vraiment cette relation, et maintenant, on parlait jusque-là des intrusions et des interférences russes, mais il faut parler aussi des interférences et des immixtions américaines. Et donc cette administration, et puis ce drôle de bonhomme qu'est Elon Musk, vraiment considère que l'Europe est à la fois un terrain de jeu et un champ de bataille, et qu'ils y sont un peu comme chez eux, et qu'ils peuvent se permettre de tout dire sur la façon dont les événements politiques se passent chez nous. Et donc c'est vraiment, il faut avoir conscience que ce qu'il faut appeler l'extrême droite, hein, c'est bien de dont il s'agit, sont de plus en plus coordonnés, qu'ils avaient déjà commencé au moment de la première présidence Trump, avec le fameux Steve Bannon qui voulait créer ici en Europe, en Italie, une sorte d'école des cadres de l'extrême droite pro-Trump. Donc il n'a pas réussi, mais les réseaux et la volonté extrêmement farouche de faire avancer aussi l'idéologie trumpiste, on va dire, en Europe est vraiment réelle. Et elle est au moins aussi, je pense, troublante et menaçante que le jeu russe.
Madame, monsieur, pardon.
Pour ma part, je connais 2 personnes qui sont catholiques, pratiquants, et qui dans ma paroisse souhaitent que monsieur Vance soit excommunié. Bon, je soumets cette proposition que je ne trouve pas du tout ridicule personnellement. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est une question naïve. Est-ce qu'il est possible de récupérer le système de défense qui a été donc établi par les Américains en Europe, quitte à l'acheter à Trump dans un deal, pour est-ce que c'est naïf, est-ce que c'est possible techniquement ou pas? Ou alors sinon, est-ce que c'est possible de le remplacer? Combien ça coûterait et combien de temps ça prendrait? Deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez de l'interdiction des 200 mots dans toutes les demandes faites au niveau fédéral? Ça veut dire qu'il y a une diminution du vocabulaire. Le mot climat, par exemple, est un mot qui devient interdit, ainsi que le mot femme, ce qui est tout à fait révoltant. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas une nouvelle révolution aux États-Unis. Peut-être qu'elle va venir, j'espère. Et troisièmement, est-ce que vous estimez nécessaire que, ce que je souhaite aussi, c'est que les troupes françaises aillent en Ukraine?
Allez-y.
Alors, je vais répondre à la première et à la troisième, si vous voulez bien. Je vous laisse. Et sur la première, non. Si vous voulez, les Américains, ils sont pas prêts à vendre, ils sont prêts à louer. Ou quand ils vendent, comme le F-35, vous savez, le fameux avion qui est vendu à un certain nombre de pays, européen, sous le prétexte que la bombe américaine ne peut être portée que par cet avion. Le problème, c'est que le F-35 travaille dans un cloud. Et donc, le cloud, il est aux États-Unis. Et donc, ça veut dire que quand vous avez besoin de logistique, etc. Alors, on dit que pour décoller, il faut l'autorisation, je suis pas persuadé. Mais en tout cas, si vous avez pas l'environnement, ça marchera pas. Donc, les Américains, ils ont pas l'intention de vendre. Ils veulent bien vous louer. Oui, c'est du business quand même, hein, tout ça. Donc ça, c'est le premier point.
Le cloud, en gros, c'est des données qui arrivent en permanence à l'avion, ouais, et des interactions entre l'avion en vol et sa base. C'est des flux permanents.
Y compris pour les cibles à atteindre, etc. Bon, et la dernière question sur les Français, les troupes françaises. Pour l'instant, l'étude qui est faite, elle n'est pas d'envoyer des troupes françaises combattre en Ukraine. Elle est faite pour envoyer des troupes françaises en garantie dans une partie de l'Ukraine qui n'est pas comprise d'un combat, après un cessez-le-feu. Et pour l'instant, on n'y est pas, hein. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun accord. Et là, au passage, je rappelle toujours que M. Trump n'a jamais réussi aucune négociation. Avec les Nord-Coréens, il n'a rien fait. Avec les talibans, on sait ce qui s'est passé. Il a passé le ballon à Biden, mais on sait ce qui s'est passé. Avec l'Iran, ils sont proches d'avoir l'arme nucléaire. Donc, il n'a réussi aucune négociation. Et là, sur la Russie, pour l'instant, il n'y a rien. Quand on me dit, mais il y a un accord sur la mer Noire. Mais non, il n'y a pas d'accord sur la mer Noire. Parce que tout de suite après que l'accord a été publié, les Russes ont mis des conditions. Donc, il n'y a aucun accord. Donc, moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un accord avec M. Poutine et entre M. Trump et M. Poutine qui arrive rapidement. D'autant que M. Poutine a le temps. Il veut combattre sur le terrain, gagner plus de terrain, puisqu'il n'a pas encore occupé les quatre oblasts qu'il a annexés en septembre 2022. Donc pour l'instant, il faut le rappeler, hein, on me dit toujours qu'est-ce que c'est la victoire, la défaite. Les Russes ont perdu la guerre qu'ils avaient engagée. Ils n'ont pas annexé l'Ukraine. Ils ont gagné un certain nombre de territoires. Les Ukrainiens n'ont pas gagné la guerre de rétablir la frontière, mais ils ont gagné une chose, c'est de rester indépendant et de pouvoir se rapprocher de l'Europe. C'est pas des victoires complètes, c'est des semi-victoires pour l'un et pour l'autre.
Ça coûterait combien de remplacer le système de commande de contrôle américain ? Question de monsieur.
Je répète, ça dépend ce que vous voulez. On n'a pas besoin du système américain. On a besoin d'un système qui permette aux Européens de se défendre. Donc je ne peux pas vous donner le chiffre, j'en sais fichtrement rien. Mais en tout cas, il est bien inférieur aux capacités américaines.
Oui, pour rebondir sur les 200 mots, d'abord, je vais faire de la pub pour un journal qui n'est pas La Croix, mais c'est le 1, l'hebdomadaire Le 1, qui a fait son, je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, qui a fait son numéro là-dessus. Et donc, et comme vous savez, c'est un journal qui se déplie. Une fois qu'il est tout déplié, il y a les 200 mots qui sont en poster. Et c'est effectivement très instructif de les lire. Finalement, ces 200 mots, pour moi, c'est assimilable à un auto-da-fé, hein. C'est quand même une destruction, finalement, de, non seulement de ces mots, enfin, on veut les faire disparaître, mais aussi de toute une, alors, de toute une littérature. Alors, c'est numérique, évidemment, hein. Mais on, voilà, l'idée, c'est quand même d'effacer de tous les ordinateurs, de toutes les mémoires et de tous les, alors, ça va bien rester quelque part, de toute façon, mais voilà. En tout cas, il y a une guerre culturelle qui est menée et qui est quand même extrêmement agressive. Et voilà, c'est pas des livres qu'on brûle, mais c'est quand même le, je trouve, le même mouvement. Donc vous parliez de révolution, est-ce qu'il va y avoir une révolution? Mais on est déjà dans la révolution, mais simplement c'est une révolution conservatrice, quoi. C'est une révolution dans l'autre sens, en quelque sorte. Donc est-ce qu'il va y avoir une contre-révolution? Je ne sais pas, et je pense que ce ne sera pas vraiment de l'ordre de la contre-révolution, ce sera effectivement peut-être plus une résistance, comme vous le décriviez, sur le terrain, et je crois que vous avez tout à fait raison d'insister sur le rôle des États fédérés et des grandes villes et des municipalités, effectivement, qui sont déterminées à poursuivre les politiques pro-démocrates dans lesquelles elles se sont engagées. Sur à nouveau, effectivement, pour revenir sur les troupes françaises, effectivement, ce que disent aujourd'hui, le président Macron a été très en pointe depuis plusieurs mois pour évoquer ce scénario, et puis petit à petit, ça s'affine. Et de fait, il s'agirait bien de... D'abord, il faudrait qu'il y ait un cessez-le-feu, et ensuite, il y aurait des troupes sans doute britanniques, françaises et peut-être quelques autres pays, mais on a beaucoup de mal à savoir quels autres pays aujourd'hui accepteraient d'envoyer des soldats dans ces circonstances. La Pologne a dit « moi, j'irai pas », alors qu'elle apparaissait comme le soutien le plus vigoureux de l'Ukraine, mais elle dit « moi, je dois d'abord sécuriser ma défense », et ça fait partie aussi de la défense finalement de l'Europe. Donc, aujourd'hui, finalement, quand les généraux travaillent sur les scénarios pour envoyer effectivement quelques dizaines de milliers d'hommes dans des endroits qui seraient pas sur la ligne de front, mais finalement, ce qui se dit à l'Élysée, au ministère de la Défense, c'est la principale garantie de sécurité aujourd'hui, ça reste l'armée ukrainienne. Et donc, l'un des enjeux très importants dans les négociations qui se passent aujourd'hui entre Russes et Américains, et où les Ukrainiens de temps en temps arrivent à faire entendre leur point de vue et les Européens beaucoup plus difficilement, c'est que la Russie veut obtenir le démantèlement de l'armée ukrainienne, la neutralisation militaire de l'Ukraine. Et donc là, il y a un enjeu très important et sur lequel les Européens sont extrêmement vigilants, c'est justement de refuser finalement ce scénario. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant d'annonces et de dizaines de millions d'euros qui sont débloqués pour aller soutenir l'armée ukrainienne. C'est que du point de vue européen, il faut vraiment que cette armée qui effectivement a montré ses preuves au combat, qui a été capable de résister à l'armée russe, qui a énormément emmagasiné d'expérience, qui évidemment a perdu aussi beaucoup d'hommes, mais qui est toujours là et donc avec énormément de savoir-faire. Donc il faut que cette armée ukrainienne soit maintenue et que l'Ukraine, lorsqu'il y aura un accord de cessez-le-feu, qu'il n'y ait pas comme condition que l'Ukraine doive démanteler son armée. C'est ça la première protection, y compris pour nous.
Je rajoute juste un mot. En l'état de la négociation aujourd'hui, vous noterez que les Européens ne sont pas invités par M. Trump ni par M. Poutine. Il est important de mettre quelque chose sur la table. Quand vous voulez rentrer dans une négociation, si vous regardez, vous n'êtes pas concerné. Si vous dites « nous », on va mettre quelque chose sur la table et on va mettre des troupes sur la table. Et ça vous autorise d'une certaine façon à être intégré dans la négociation. Sur les Européens, on revient à ce que je disais au début. Le problème, c'est les capacités européennes. Les Européens se réveillent depuis 3 ans. Vous parliez des Polonais. Rencontrez le ministre des Affaires étrangères polonais. Il dit, nous, on veut bien être base arrière. Parce que la Pologne, vous en avez besoin. Et on ne va pas s'avancer parce que historiquement, on a quand même des gros problèmes avec les Russes, les Ukrainiens, etc. Donc, mais comptez sur nous. On va être fort en base arrière. On va être fort en base arrière. Les Baltes vont vous dire, nous, on veut bien. Ben, ils n'ont pas grand-chose quand même. Puis ils ont une frontière Estonie-Lettonie commune. Donc voilà, quand on fait le décompte, il n'y a pas grand monde. C'est pour ça que vous avez le binôme franco-britannique. Parce qu'on a travaillé ensemble. On a les accords de Lancaster House qui nous permettent de travailler ensemble. Mais là aussi, il faut faire un reset, comme on dit. Parce que les Britanniques, je peux vous dire que l'armée anglaise, elle est un peu en chute libre. Et donc, ils ont du mal. Donc ils vous disent, bah oui, des avions, la marine peut-être. L'armée de terre, ils n'ont pas grand-chose. Donc voilà, un, être présent dans les négociations en mettant du poids sur la table. Deux, quand on fait le calcul, c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose, plus grand monde derrière.
Madame, on va vous donner un micro.
Je me permettais de vous dire que je suis basée à Bruxelles depuis 15 ans. Et j'ai observé, en tant que témoin, les coups de boutoir d'un certain courant catholique parce que l'Union européenne offre un volet affaires religieuses. Et dedans, j'ai assisté à des vrais coups de boutoir de William Burke, le principal opposant de la papauté, mais extrêmement violent. Et croyez-moi, pourtant, en même temps, il y avait Madeleine Albright dans la foulée qui expliquait que... L'OTAN, c'est très bien, mais elle n'a pas besoin d'alliés. Elle n'a besoin que de partenaires financiers. Donc, ça a commencé très tôt, dès les années 2010. J'ai pu être témoin de ça. Et quant à ce que vous signalez comme étant une valeur chrétienne, catholique, qui est la lutte pour la vie, pour eux, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est que cette extrême droite, était en train de mourir parce qu'elle n'avait pas de rhétorique suffisante. Et comme ils étaient à l'agonie au niveau de la rhétorique, il y a eu quelqu'un qui a eu, comme disait Robespierre, puisque nous allons tout perdre, les Autrichiens arrivaient, il nous reste la terreur. C'était un dîner privé. Et les mémoires de Cambacérès, de son secrétaire, le racontent. Et bien, de la même manière, il y a eu un génie sombre, certes, qui a dit, mais attendez, on a une arme géniale, on a la lutte contre l'avortement. Et là, on n'aura personne pour nous barrer la route. Quant aux démocrates, aujourd'hui, j'en rencontre beaucoup d'Américains très éduqués qui ne comprennent même pas pourquoi ils ont perdu. Le problème, c'est pas qu'ils sont sonnés, c'est qu'ils cherchent encore pourquoi. Ils ne savent pas eux-mêmes. Et c'est pour ça que je crains beaucoup. Et enfin, sur le droit dont vous parlez, si on regarde le nazisme, pendant, dès son arrivée, on peut dire dès 24 jusqu'en 33, Hitler a d'abord mis à la tâche, au taf, comme on dit, des juristes à sa main pour détricoter le droit, puis épurer les juristes. Je pense qu'on n'est pas dans autre chose que ce qu'on peut appeler une épuration. Je ne suis pas inquiète. Je suis maman, on n'a pas le droit d'être inquiet. On ne peut qu'être optimiste. Et on dit que le contraire du pessimisme, ce n'est pas l'optimisme, c'est le cynisme. Donc on n'est pas cynique, on va se battre. Ce que je veux dire, c'est que la lutte de Steve Bannon a commencé très tôt. Très très tôt, qu'elle continue à Bruxelles et qu'il serait très intéressant de suivre de près le volet dans l'Union européenne des affaires religieuses, éventuellement.
Réagir.
Les affaires religieuses ne sont pas strictement censurées dans les compétences de l'Union européenne. Jacques Delors avait tenu justement à créer un dialogue entre la Commission et les grandes religions, et ça concernait notamment l'Église catholique. Mais simplement, effectivement, il y a eu la charte des droits fondamentaux qui a été adoptée aux environs des années 2000, et cette charte, elle a inscrit un certain paysage de valeurs. Et vous vous souvenez tous du fameux combat franco-français sur le fait est-ce qu'il fallait mentionner l'héritage chrétien dans la Constitution. Donc là, il y a eu un petit moment de bascule qui s'est joué parce que finalement cette formule n'a pas été retenue. Et certes, c'est très clairement un certain nombre de croyants, qu'ils soient catholiques ou protestants ou orthodoxes, ont été choqués par ça et ont eu le sentiment que l'Europe, finalement, l'Union européenne, finalement, trahissait un petit peu son socle. Et je pense qu'au Vatican, beaucoup pensent comme ça, qu'il y a eu là un moment pivot. Ça fait partie des critiques assez fréquentes qu'on entend au Vatican, quels que soient les papes et quels que soient les responsables de la diplomatie, que l'Europe s'est éloignée de ses valeurs. Donc là, effectivement, ça parle un petit peu quand vous avez un J.D. Vance qui dit... qui brandit en quelque sorte le christianisme en étendard, un Victor Orban qui le fait aussi sans pudeur aucune, alors que lui n'est pas particulièrement pratiquant non plus, mais en tout cas il a bien compris que pour les Hongrois en tout cas, et c'était vrai aussi des frères Kaczynski en Pologne, effectivement là il y a, un réservoir de valeurs qui parle à un grand nombre d'Européens et ça va nourrir le combat idéologique dont je parlais tout à l'heure et ça va être donc effectivement ça nous concerne tous effectivement l'usage du catholicisme qui sera fait par un certain nombre de leaders politiques ça va nous concerner aujourd'hui il y a une certaine Marion Maréchal qui se gêne pas pour vraiment utiliser ce référentiel à des fins politiques.
Madame.
Oui, alors je ne sais pas s'il est encore temps, mais le titre c'est Trump, Poutine et Xi. Est-ce que Xi va être notre sauveur?
Est-ce que Xi Jinping va être notre sauveur?
Alors la réponse est simple. Non. Mais alors pas du tout. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un raisonnement en deux temps finalement. Xi Jinping c'est un leader communiste pur et dur. Léniniste. Donc, il pioche vraiment dans les références profondes de la doctrine communiste. Et lorsqu'il est arrivé, il a vraiment redonné une colonne vertébrale idéologique au Parti communiste chinois, qui finalement, depuis 10 ou 15 ans, était devenu un gestionnaire plutôt, je vais un peu forcer le trait, un gestionnaire un peu débonnaire de la poussée capitaliste de la Chine. Et donc Xi Jinping a vu quelque chose de très menaçant, et de menaçant pour qui ? Pour lui et pour le Parti communiste. Parce que l'objectif du Parti communiste, c'est de rester au pouvoir. Et donc, Xi Jinping a vraiment bâti une stratégie pour réaffirmer le rôle central du Parti communiste. Donc, il y a toute une... c'est ce qu'on appelle la pensée Xi Jinping. Il y avait la pensée Mao Tse-tung. Eh bien, il se considère comme l'égal de Mao Tse-tung. Donc, il y a tout un corpus de doctrines qu'il a fait adopter, qui, dont la lecture est imposée à tous les membres du Parti communiste chinois, qui, grâce à TikTok ou les équivalents, on peut vérifier s'ils ont bien lu et s'ils ont bien coché les bonnes réponses. Hein, donc ça va très loin, le contrôle. Et donc voilà, ce Parti communiste, donc à nouveau une colonne vertébrale idéologique, des processus de purge qui font que c'est vraiment, il n'y a que des fidèles. Alors, c'est un peu faux. Il reste des factions, parce que la Chine est un énorme pays, donc il y a aussi des factions liées aux provinces, aux grandes villes, etc. Mais quand même, l'essentiel du pouvoir, c'est Xi qui le détient, d'autant qu'il a bien gardé en main non seulement le secrétariat général du Parti communiste, mais aussi la présidence de la Chine du pays, mais aussi la présidence de la commission militaire, qui est l'organe voilà, qui dirige l'armée. Et ensuite, il a aussi, dans le domaine économique, ça c'est un virage très important, il a justement coupé les ailes des grands groupes privés qui avaient jailli, en quelque sorte, en 10-15 ans en Chine, et qui, effectivement, avaient acquis une très très grande puissance. Et donc, il a vraiment dit... quitte à réduire le pourcentage de croissance, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai le contrôle. Et que ce soit le Parti communiste, alors évidemment dans toutes les entreprises, mais ce sont à nouveau les entreprises publiques qui sont chargées de mener le développement de la Chine et de mener les objectifs de souveraineté chinoise que Xi Jinping veut appliquer et qui, finalement, comme un pendant à ce qui se passe aux États-Unis, la Chine, elle aussi, veut reculer finalement par rapport à sa dépendance vis-à-vis des exportations et des importations, et elle veut de plus en plus tout faire elle-même autant que possible, et donc c'est les entreprises publiques chinoises qui sont aujourd'hui à la manœuvre pour développer une industrie de l'armement de plus en plus importante, pour développer aussi, prendre le contrôle des grandes routes commerciales qui permettent d'aller chercher les denrées, les minerais, l'agriculture, puisque la Chine est extrêmement dépendante des importations de produits agricoles. Et donc voilà, c'est ce Xi Jinping est comme Poutine, et c'est pour ça qu'ils s'entendent si bien, et c'est pour ça qu'ils se parlent. J'ai lu que Xi avait évoqué Vladimir Poutine comme un cher ami. Eh bien ça, en Chine, ça ne se fait jamais. Jamais, surtout quand vous êtes secrétaire général du Parti communiste. C'est cher ami, enfin, ce langage un peu émotionnel, ça ne s'utilise pas. Pour qu'il l'ait utilisé, c'est vraiment qu'il voulait marquer sans doute une très grande estime et une très grande convergence, une très grande proximité, notamment dans leur rejet, en fait, des valeurs occidentales, dans leur rejet de la démocratie, dans le rejet de l'Occident en tant que système qui a finalement dominé le monde depuis 400 ans. Les Chinois, ils ont vraiment encore en tête les humiliations qu'ils ont subies au 19e siècle et au 20e siècle. Et donc, Xi, c'est la revanche. Xi, c'est la Chine superpuissance, en gros, dans 20 ou dans 25 ans. Et pour arriver à ça, c'est la réintégration de Taïwan dans le giron chinois. Et là, tout l'enjeu, là aussi, Xi a accéléré la militarisation. Avant lui, les précédents secrétaires généraux étaient plutôt dans une politique d'absorption, de création de liens tellement forts qu'à un moment donné, Taïwan, alors peut-être avec un petit moment bascule comme à Hong Kong, mais en tout cas, ça allait se faire, entre guillemets, pacifiquement. Et Xi a décidé que si ça devait être militairement, ce serait militairement. Et c'est là où il y a une possible collision avec les États-Unis. si jamais les États-Unis considèrent que cette Chine qui monte, devient une menace pour leurs intérêts en Asie, dans le Pacifique et jusque sur les côtes américaines.
Alors simplement, puisqu'on parle de la Chine, la similitude entre la Chine, la Russie et les États-Unis, c'est le fait de tenir le pouvoir de façon différente. En Chine, par l'idéologie et par les systèmes numériques. Tout Chinois est espionné en permanence. Donc on tient la population. Il faut reconnaître qu'un milliard et 400 000, c'est quand même compliqué hein, comme pays. Hein. Donc voilà, ça c'est la façon de tenir pour Xi. Pour M. Poutine, c'est la guerre. Avec la guerre, je tiens la population. Avec la guerre, toujours référence à la grande guerre patriotique, etc., etc., je militarise la société en mettant en place les vétérans à des postes clés. Donc on rétribue. Et puis en organisant l'économie de guerre, qui est vraiment chez eux une économie de guerre, donc il tient le pouvoir comme ça.
Et on distribue du pouvoir d'achat en plus.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et du côté de M. Trump, c'est l'absence de l'état de droit. Je m'en fous et je veux garder le pouvoir. Il a dit il n'y a pas longtemps que finalement les 4 années précédentes, elles ne comptaient pas. Parce qu'il n'avait pas perdu les élections et que tout ça, on va vous rectifier tout ça. Donc ça, c'est le point commun. Maintenant, pour revenir sur la Chine et sur le rapport et sur Taïwan, la Chine devient un empire dirigé par un empereur, comme autrefois. Mais à la limite, on peut dire, bah oui, la Chine, ça a un peu toujours été comme ça, en fait. Hein. Elle développe un outil militaire important, mais je pense qu'elle regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe du côté de M. Trump. Parce que vous comprenez, s'il annexe le Groenland, pourquoi est-ce que la Chine ne reprendrait pas Taïwan? Et est-ce que les États-Unis feront la guerre pour Taïwan? Quelle est la valeur ajoutée de Taïwan? Les microprocesseurs, 70% des microprocesseurs au monde sont faits à Taïwan. Sauf que les États-Unis construisent des usines de microprocesseurs aux États-Unis maintenant. Alors ne vous posez pas la question pourquoi les Taïwanais ont 2 passeports. Il y en a un qui est toujours orienté vers la sortie. Parce que sur l'aspect militaire, tous ceux qui étudient un peu Taïwan, mais on ne débarque pas à Taïwan. Il n'y a pas de plage, il y a des falaises, c'est compliqué, il y a un réseau de missiles extraordinaire, etc. En revanche, on peut faire pression sur Taïwan. Et donc, au fur et à mesure de ce que l'impérialisme américain se réveille, les Chinois vont tester en disant « Où est la fenêtre d'opportunité? À quel moment, moi, je peux dire ?» Vous savez, après les élections à Taïwan, réaction de Xi, très malin, qui a dit « Mais finalement, il n'y a que 40% des Taïwanais qui ont voté pour un parti pro-indépendance. Donc il y en a 60% qui sont contre. Donc ça veut dire qu'ils veulent rejoindre la Chine. » Pendant les Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous avez vu, moi ça m'a beaucoup amusé, les bateaux qui passaient sur la Seine, là, il y avait Chine continentale, Chine de Macao, Chine de Hong Kong, Chine de Taïwan. Tout ça, c'était la Chine. Donc pour les Chinois, c'est qu'une question de temps. Comme vous le disiez, le siècle des humiliations, ça a duré un siècle, hein, au milieu du 18e, du 19e, pardon, au milieu du 20e. Mais la civilisation chinoise, elle est millénaire. Donc on n'est pas dans le même espace-temps. Donc, ça viendra, il suffit d'être patient, et je pense que un phénomène auquel il faut penser, en Chine, les soldats chinois actuellement, ce sont les enfants uniques. Vous savez, la politique de l'enfant unique, qui a été arrêtée, mais qui ne reprend pas. Il n'y a toujours qu'un seul enfant par famille. Et pensez-vous que les familles chinoises vont sacrifier leur enfant unique alors que la lignée, vous savez comme c'est important en Chine, est fondée là-dessus. Moi, je crois qu'ils n'iront pas jusqu'à la guerre. Ils vont aller à l'étouffement. Et je pense qu'avec le temps, les Américains laisseront faire.
Question. Monsieur.
Vu qu'il y a eu un accord commercial entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Donc il y a quand même... c'est assez nouveau, non?
Non, mais vous avez raison. La Chine, et moi, il y aura des accords avec les Européens. parce qu'on a besoin du commerce avec la Chine. Et la Chine a besoin du commerce avec nous. Et donc, si M. Trump n'arrête pas de mettre des barrières, ben on va aller chercher le commerce ailleurs. Voilà. Et en Asie, effectivement, la Corée du Sud et le Japon ont fait un accord commercial parce qu'il y en a besoin. La Chine a besoin, vous en parliez, dans son développement, elle a besoin, c'est l'usine du monde. Donc elle a besoin de récupérer des matières premières ailleurs, d'où l'accord avec la Russie au passage. Elle achète le pétrole et le gaz beaucoup moins cher. Et elle produit. Et elle produit des choses dont nous avons besoin et dont un certain nombre de pays ont besoin.
C'est effectivement très complexe pour le Japon et la Corée du Sud, parce que ce sont des alliés des États-Unis, donc ils ont des dizaines de milliers de soldats américains sur leur base, et qui sont là pour protéger enfin, voilà, le territoire japonais et sud-coréen. Et en même temps, leur principal partenaire commercial, c'est la Chine. Et l'un des moyens de baisser la tension avec la Chine, c'est effectivement de maintenir des flux commerciaux très importants. Donc ils sont dans cette situation, finalement, ils recherchent un équilibre. Mais voilà, en même temps que le Japon signe un accord, eh ben, ils sont en train de multiplier par deux leur budget de la défense. Ils sont en train de faire bouger un petit peu l'interprétation de la Constitution qui dit, bah, normalement, les forces armées chinoises sont là uniquement pour l'autodéfense.
Japonaises, sont
là pour l'autodéfense. Eh bien, ils sont en train, petit à petit, de faire évoluer le concept de façon à pouvoir s'autoriser à mener des actions offensives, en fait. Donc, voilà, on est vraiment dans ce jeu très compliqué, très complexe de pays qui veulent d'abord maintenir la paix et le commerce, mais qui voient monter, qui sont en quelque sorte un peu aspirés par cette tension croissante, cette rivalité croissante entre la Chine et les États-Unis. À la limite, personne n'a envie de choisir. Et nous, les Européens, on n'a pas vraiment envie de choisir. Et ça permet de rebondir aussi sur la question précédente sur la Chine. Effectivement, Xi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais plus globalement, si on s'interroge, nous, Européens, quelle relation doit-on avoir avec la Chine ? Effectivement, il y a des enjeux économiques très importants et on n'a pas forcément les mêmes intérêts que les États-Unis. Donc, on n'a pas forcément à s'aligner derrière les États-Unis ou à soutenir les États-Unis dans cette posture finalement très, très, très agressive vis-à-vis de la Chine aujourd'hui. En tout cas, c'est une question ouverte.
Monsieur ?
Nouvel ordre du monde. Pour l'instant, on a été aux États-Unis, en Europe, en Asie. On peut peut-être descendre en Afrique, où nos amis, enfin au moins les deux derniers, sont présents. La France est en pas très, très bonne posture. Les Américains, je ne sais pas si dans quelle mesure ils s'intéressent beaucoup. La Russie s'y intéresse, avec un succès peut-être mitigé, il faudra voir. La Chine, depuis longtemps, s'y intéresse. Voilà comment tout ça fonctionne.
Alors moi, je crois que sur l'Afrique, il faut d'abord voir la démographie. Le monde a une démographie déclinante. On est 8 milliards à peu près, mais si les courbes continuent comme ça, on va plutôt baisser, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf en Afrique. En Afrique, il y a une explosion démographique. Et l'Afrique, c'est notre « backdoor », comme disent les Américains, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, on n'évitera pas, nous, continent vieillissant, hein, les derniers chiffres, la population française était celle qui se portait le moins mal. Mais elle est quand même à 1,6 de taux de fécondité, là où il faudrait être à 2,1. Et l'Afrique est à plus de 4 en moyenne, avec des pics à 6 ou 7. Donc, il faut s'attendre, le problème migratoire est un problème qui va nous toucher. Ça, c'est le premier point. Il nous touche, mais je veux dire, il est incontournable. Un pays vieillissant, il y a des populations jeunes qui n'ont pas de débouchés, hein. Vous voyez le Niger, par exemple. En plus, alors on en vient au problème politique. La France est partie du Sahel, en particulier parce que des gouvernements du Sahel lui avaient demandé de venir. Ces gouvernements ont échoué. L'armée française a fait ce qu'elle a pu. Mais quand vous luttez contre des djihadistes, faut aussi mettre en place des préfets, des écoles, des juges, etc. Et quand vous les mettez pas dans ces zones-là, eh bien, les djihadistes reviennent dès que l'opération militaire est partie. Donc, ces gouvernements africains ont échoué, donc coup d'État et mise en place de juntes militaires. C'est un militaire qui vous le dit, c'est pas une bonne solution. Parce que ils gèrent leurs affaires. Et qu'à terme, aujourd'hui, les djihadistes gagnent du terrain. Donc, c'est une catastrophe. Les Russes, là-dedans, ne sont utiles que pour ça, c'est-à-dire pour donner des gardes prétoriennes à ces gouvernements putschistes. Ils n'apportent rien, même plus des chasse-neige comme ils faisaient à l'époque de l'Union soviétique. Ils n'apportent rien. Et ils n'ont pas besoin des matières premières africaines, parce qu'eux en ont plein en Russie. Donc ils n'en ont pas besoin. Seule chose dont ils ont besoin, c'est de l'or pour payer les mercenaires. Alors ça, oui, ils le font. La Chine, en revanche, elle a besoin des matières premières africaines. Donc elle a besoin, et elle développe aujourd'hui, j'avais regardé il y a 2 jours là, les chiffres du nombre de ports africains qui ont des accords avec la Chine. C'est absolument fabuleux. C'est une trentaine, quelque chose comme ça. Donc avec des accords pour pouvoir retirer les matières premières, et au passage, vous savez que les terres rares, si elles viennent de n'importe où, 90% sont raffinées en Chine. Donc c'est quand même la clé pour les technologies futures. Donc voilà les rapports. Le continent africain, pour nous, ça va être d'abord le problème de l'immigration. Pour la Chine, ça va être d'abord le problème de la récupération des matières premières. Pour les Russes, c'est une façon de déstabiliser les Occidentaux par des milices qui sont payés sur la bête, hein, qui se payent localement. Et au passage, de récupérer des soldats pour aller combattre en Ukraine. En Centrafrique, aujourd'hui, des Centrafricains qui m'ont dit, on a fait une pétition pour qu'il y ait un monument aux soldats centrafricains tués en Ukraine qui soit mis devant le Kremlin. Hein? Bon, alors, c'est assez étonnant. Hein? Bon, donc il y a ces sujets-là. Les Américains, c'est vrai qu'ils ont toujours été un peu en retrait par rapport à ça. Ils ont été très présents dans la lutte contre les mouvements djihadistes, avec les Français d'ailleurs. Ils le sont beaucoup moins aujourd'hui. Et je pense qu'ils restent un peu étrangers à ces combats, même si sur le plan idéologique, ils devraient être beaucoup plus proches de nous.
Peut-être que je peux ajouter que d'un point de vue africain, la Chine principalement, a été vu comme une opportunité par de nombreux gouvernements, comme une alternative finalement à ceux qui étaient les partenaires habituels, France, Allemagne ces dernières années, à un moment États-Unis. Et donc la Chine a été vue comme une alternative parce qu'elle apportait du cash et parce qu'elle proposait des grands projets d'infrastructure. Et donc il y avait apparemment la possibilité d'un développement accéléré pour un certain nombre de pays partenaires. Il semblerait que ce soit un peu moins vrai aujourd'hui, c'est-à-dire il y a quand même des pays dans lesquels les investissements chinois d'abord n'ont pas été de très bonne qualité. Ensuite il y avait la question de la main-d'œuvre chinoise finalement qui était importée de Chine et donc les Africains eux-mêmes n'avaient pas tellement l'occasion de travailler. Et donc c'est une relation, je dirais, qui paraît, pour certains Africains aujourd'hui, un petit peu moins gagnant-gagnant. Que ça semblait être le cas peut-être il y a 10 ou 12 ans. Récemment, c'est au Niger, le Niger donc qui a mis dehors les Français, mais récemment ils ont aussi mis dehors des Chinois. Ils ont fermé l'hôtel dans lequel descendaient les cadres chinois qui étaient là pour exploiter le pétrole. Et donc voilà, parce qu'il y avait eu des différends à la fois économiques et puis aussi un peu de sensibilité là aussi souverainiste nigérienne. Donc voilà, mais en même temps, la Chine effectivement, on va utiliser quand même peut-être un mot fort, mais agit un peu comme une prédatrice finalement aujourd'hui en Chine et comme vous le disiez avec en Afrique pour retirer des matières premières agricoles. Hein. La Chine a un énorme besoin d'importation agricole et puis aussi effectivement pour les terres rares, pour faire tourner l'usine du monde. Et donc effectivement, elle a déployé ses réseaux commerciaux. L'Afrique n'est pas au cœur de la stratégie chinoise. La Chine résonne en cercle concentrique et donc il faut quand même franchir l'océan Indien pour arriver en Chine. Mais effectivement, la Chine a énormément de moyens et donc elle a pu investir à relativement bas coût, finalement, en Afrique. Peut-être un dernier élément aussi, on voit que l'Afrique, et il y a plus de 50 pays en Afrique, ça pèse dans la grande agora mondiale, ça pèse à l'ONU. Et la France en sait quelque chose, parce que justement, pendant longtemps, elle a compté sur 10, 12, 15 pays africains qui voilà, avec des relations privilégiées, diplomatiques, économiques, finalement, quand il y avait des votes à l'ONU, hop, c'était presque, voilà, on avait 10 ou 12 ou 15 votes garantis. Et ben aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on a vu lors de la guerre en Ukraine que finalement en Afrique, bah, la plupart des pays africains n'ont pas particulièrement été en soutien des Occidentaux qui disaient il faut vraiment mettre isoler les Russes. Ça n'a pas fonctionné. Et donc il y a aussi cet enjeu de compétition en quelque sorte diplomatique qui se joue en Afrique et sur laquelle les Chinois et les Russes se positionnent.
Madame.
Oui. Le thème de la soirée étant, entre autres, un nouvel ordre du monde, je pense qu'il est quand même difficile de ne pas parler des BRICS, dans lequel on retrouve effectivement M. Poutine et M. Xi Jinping.
Donc, les BRICS sont donc le Brésil, la Russie, l'Indonésie,
l'Afrique du Sud,
et l'Inde.
Certains pays maintenant du Moyen-Orient, et là, ils s'avancent. Hein. Enfin, je veux dire par là qu'on voit bien que ça se développe d'une manière très importante, et que, un, ils représentent quand même une population très importante. Deux, ils représentent quand même la forte croissance. C'est eux qui ont eu la plus forte croissance au cours des 20 dernières années. Donc, je pense qu'effectivement, ils voudront, de manière tout à fait naturelle, prendre leur place au sein du système mondial, d'une manière ou d'une autre. Donc, on en parle beaucoup, on en parle, mais d'une manière, c'est quand même encore un peu flou. Donc, quelle est votre approche à ce niveau-là?
J'ai une mauvaise plaisanterie qui consiste à dire les BRICS, c'est fait de briques et de brocs. Si vous voulez, et plus ça s'étend, plus c'est le cas. Qu'est-ce qui réunit la Chine et l'Inde? On peut se poser la question. Le Brésil et l'Afrique du Sud. On peut se poser la question. Donc, il y a une volonté de s'opposer. Et moi, des Nations Unies, j'ai rapporté le souvenir que j'avais de ce qu'on appelait le mouvement des non-alignés. Vous savez, non-aligned movement. C'était 77 pays, c'était important, qui étaient capables de s'opposer, mais qui n'étaient pas capables de proposer. Et ce que je vois aujourd'hui, la dernière réunion des BRICS, dont on parle plus beaucoup en ce moment, c'était à Kazan. Et à Kazan, les Russes avaient prévu une réunion sur la nouvelle monnaie des BRICS. Eh bien, tenez-vous bien, la moitié des pays des BRICS ne sont pas allés à la réunion. Ça montre que ça n'a pas accroché, quoi. Donc, je pense qu'il y a une force d'opposition. Il n'y a pas vraiment de force de proposition. Maintenant, vous avez raison, il faut leur trouver leur place. En 1975, le G7 représentait plus de 60% du PIB mondial. Aujourd'hui, il en représente moins de 40%. Ça veut dire que d'autres ont pris la place. Et ils sont chez les BRICS. Et donc, il faut leur trouver leur place. Et dans le concert international, où pour l'instant on n'a rien inventé d'autre que l'ONU, bah, la discussion c'est qui va être membre permanent de l'ONU en plus de ceux qui y sont, en plus des cinq. L'Afrique, deux pays, bah, ils n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce que c'est le Nigeria? Est-ce que c'est l'Afrique du Sud? Est-ce que c'est l'Égypte? Est-ce que c'est le Soudan? Le Soudan, ça m'étonnerait en ce moment. L'Algérie, vous voyez, ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc je pense qu'il y a une force d'opposition, mais je vois pas très bien la force de proposition que représentent les BRICS. La seule qu'il y avait, c'était la dédollarisation. Ils ont un peu raté la première marche. Bon, Monsieur Trump est en train de parler des crypto-monnaies, donc c'est peut-être lui qui va dédollariser, en fait. Je ne sais pas.
On parle plus de Sud global désormais que de BRICS, d'ailleurs.
Voilà, c'est effectivement l'expression sur laquelle que je voulais apporter aussi dans la conversation, effectivement, cette appellation de Sud global, qui est au moins aussi floue, effectivement, que celle de BRICS. Mais je pense que derrière, effectivement, il y a la vision que l'ordre occidental tel qu'il est perçu et tel que peut-être qu'il faut l'appeler, créé en 1945, doit être rénové, doit être contourné, doit être complété. Mais voilà, il y a vraiment de la part d'un très grand nombre de pays et notamment de toutes les grandes puissances émergentes, alors grandes à la fois par le PIB, mais aussi par la population, par le poids régional qu'ils peuvent jouer. Il y a vraiment la volonté de d'affirmer vraiment leurs intérêts. Prenons un pays comme l'Indonésie, par exemple. C'est 200 millions d'habitants, 170. C'est un pays qui effectivement se développe rapidement, avec des élections. En Europe, on dirait pas qu'elles sont libres et équitables, mais il y a quand même cette rotation au sommet de l'État. C'est un État fédéral, c'est un État extrêmement composite au niveau de son identité, mais justement qui se conçoit comme un modèle finalement, ou comme un qui a confiance en tout cas dans son modèle. Il y a une énergie incroyable en Indonésie aujourd'hui, de même qu'il y a une grande énergie au Brésil ou dans d'autres pays. Et donc c'est cette énergie là en fait, si on le voit positivement, qui cherche à s'exprimer, qui cherche à trouver des canaux, des alliances, pouvoir peser. Et qui se conçoit comme finalement assez différent de ce qui se passe en Europe. Et peut-être qu'on peut là juste ajouter que dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui, l'Europe n'est pas perçue comme un exemple. L'Europe apparaît en crise, l'Europe apparaît divisée. L'Europe, effectivement, il y a le conflit ukrainien évidemment qui aujourd'hui nous pénalise et nous freine, mais les années précédentes, il y avait, y compris, on peut dire, les images de gilets jaunes en France ou tout ça. Enfin, ça envoie vraiment des images dans un certain nombre de pays qui, eux, se sentent, en totale confiance, qui savent qu'ils ont des gros défis devant eux. En Indonésie, ils déplacent leur capitale. Enfin, quand vous avez un projet pareil, c'est que vraiment, vous avez la pêche, quoi. Et donc, c'est ça ce qui est en train de se passer au niveau des BRICS.
Une dernière question.
Face à ces grands enjeux géopolitiques dont vous parlez, est-il encore possible de parler de l'enjeu de défense de la planète?
Alors, à la Croix, on a décidé que oui. Et donc, on a lancé en 2025 une opération qui s'appelle Parlons écologie. Et donc, c'est un effort
dont Jean-Christophe est responsable,
dont je suis l'animateur. Et donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas seulement un service spécialisé qui est d'ailleurs le service dirigé par Vincent. Donc, on fait vraiment la paire ce soir. Mais l'enjeu écologique doit être assumé dans tous les services. Et donc, qu'il faut faire preuve de créativité pour envisager des sujets qui permettent de porter très haut ce sujet. Alors, est-ce que je pense que vous avez tellement raison, hein. On a le sentiment que les enjeux écologiques aujourd'hui, ils sont en recul, qu'ils passent au second, voire au troisième plan. Et que notamment l'enjeu de la guerre a pris en quelque sorte le dessus. Et justement dans le groupe un peu qu'on a créé au sein de la Croix, on en parlait jeudi dernier, on se posait la question, est-ce que la guerre, c'est pas justement l'exact contraire de la prise de conscience écologique et de la marche vers l'adaptation, la transition. Et donc ça le tend pour l'écologie. Enfin, et là on parle pas de l'écologie au sens parti politique, mais au sens de l'intérêt et de développement de politiques qui permettent de limiter le changement climatique, de limiter l'effondrement de la biodiversité et de faire les changements nécessaires pour qu'on change de modèle énergétique notamment. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que avec le mouvement qui a été impulsé depuis 10 ou 12 ans dans ce domaine, on voit que même si l'agenda est un peu moins visible, finalement, il y a toujours un certain nombre d'actions, de réglementations, de décisions qui sont prises aussi par des grands acteurs économiques, des entreprises, etc. Et donc, la prise de conscience se poursuit à bas bruit. Et je pense qu'il faut justement rester dans cette... Pour ceux qui sont vraiment convaincus, intéressés par ce sujet et par ce changement nécessaire, il faut rester très mobilisé sur cet enjeu.
Élire Lacroix, il est 20h45, je passe... La parole à Étienne.
Voilà. Merci infiniment pour votre participation, pour les bons enseignements que vous nous avez donnés sur ce sujet difficile. Donc, il faut bien entendu lire La Croix, mais je vous suggère également de lire le numéro de ce mois-ci d'études, qui a un article qui s'appelle Trump 2.0, le choc d'un pouvoir sans limite, qui reprend quand même un des sujets que nous avons abordé longuement aujourd'hui. Voilà, notre prochaine réunion aura lieu le 13 mai. Le sujet est encore en cours de discussion eu égard à l'évolution rapide de l'actualité. Donc, nous vous informerons bien entendu en temps et en heure. Je vous rappelle, enfin, avant de vous quitter, qu'il y a des troncs à la sortie de la salle, si vous voulez contribuer à l'organisation de ces réunions. Je vous remercie infiniment et excellente soirée.